Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre. Chaque après-midi, deux heures d'histoire décomplexée pour combiner savoir et bonne humeur. En compagnie de mon fidèle complice, bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout pour une émission qui s'annonce particulièrement déconnante aujourd'hui, puisqu'on va évoquer les grands confesseurs de l'histoire. Grosse barre de rire en perspective, une émission que Stéphane a préparée.
Dans la prière et la chasteté.
On va bien déconner, Stéphane.
Alors, j'ai une confession à vous faire.
Oui, vous vous en foutez de l'histoire. En fait, votre vrai truc, c'est le tuning et les putes. Je sais, Stéphane.
Non, les confesseurs célèbres, c'est notre thème, Mathieu, cet après-midi.
Pardon, oui.
Mais oui, avec trois nouveaux personnages que l'on réunit pour la première fois. Ils ne s'étaient jamais rencontrés.
C'est vrai.
D'abord, François d'Aix de la Chaise, dit le père Lachaise, celui qui fut le confesseur du roi Louis XIV pendant 34 longues années à la cour de Versailles. Il connaît tous les secrets du roi Soleil, vous verrez. Puis je vous raconterai celle qui n'a pas confessé un seul homme, mais plutôt des milliers et des milliers de femmes à la radio tous les après-midi.
Mélanie Gomez.
Non, un peu plus loin dans le temps, vous voyez, sur une autre antenne, mais leurs initiales sont les mêmes. MG, Ménie Grégoire, la pionnière de la confession radiophonique qui a été plus qu'une oreille, un porte-voix. Quant à vous Mathieu, vous évoquerez une figure plus récente parmi les confesseurs célèbres.
Oui, il a confessé Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, encore Mimi Mathy. Je vous raconte les destins de Laurent Boyer.
Mais il est vivant toujours?
En pleine forme Stéphane, vous êtes si mauvaise langue, vous allez avoir du boulot au confessionnel. Hein.
Eux aussi, ils sont en pleine forme et ils sont bien vivants. Avec nous, comme chaque jour, elle a travaillé d'ailleurs avec Laurent Boyer. Elle sait tout sur lui, comme elle sait tout sur tout le monde. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, mais moi, il y a surtout une question en particulier qui me brûle les lèvres, et je pense celle de nos auditeurs. Depuis des semaines, Stéphane, êtes-vous le descendant caché de Robespierre?
Mais oui,
comme l'a insinué Mathieu Noël.
Mais je n'ai rien insinué, c'est Wikipédia qui l'écrit.
Ah, oh, mais écoutez, alors est-ce que Wikipédia est parole d'évangile? Mon bien cher fils, confessez-vous à nous, livrez-nous votre secret de famille. Hein. Bon, alors pour en avoir le cœur net, bien sûr, il suffirait de vous choper un peu d'ADN et de trouver celui de Robespierre. Et en attendant de mettre à exécution ce beau projet digne d'un poisson d'avril, eh bien j'ai lu pour vous « Quoi de neuf dans la famille ?» écrit par un généticien et un généalogiste.
Très bien. Avec nous également David Castello-Lopez qui revient chaque jour sur une invention, les origines d'un phénomène, d'une mode. Aujourd'hui
oui, tout à fait, c'est une invention qu'on pourrait dire une invention de FDP qui est le filtre à cigarette. Vous savez, le petit filtre qu'on met sur la cigarette et qui semble les rendre plus inoffensives.
Et en fait, ça les rend encore plus nocives.
On peut même dire ça.
En revanche, un produit qui, qui n'est pas nocif du tout et qui est bon pour la santé, c'est la saule meunière. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Oui, une belle saule, mais préparée meunière. D'où vient cette préparation? Il y a une légende assez amusante. Et puis, en cadeau bonus, je raconterai même la légende qui entoure la saule. Vous savez, ce poisson un peu particulier, tout plat, comme ça. Belle légende aussi.
Une légende autour de la saule. Mmh. Évidemment, ça donne envie.
C'est vendu, ça, quand même.
C'est très, très bien vendu. Il y aura une recette aussi. On pourra apprendre à préparer la saule meunière. Enfin, c'est le moment de la confession qui prend le plus de temps. Chaque vendredi à Stéphane, lorsqu'il raconte sa semaine à l'abbé Bitard dans le secret de la chapelle de Thiron-Gardet. Mon père, j'ai encore péché par excès de confiance dans le quiz de culture générale et je me suis une fois de plus couvert de ridicule. Que dois-je faire? Priez, mon fils, priez. Mais la prière suffira-t-elle? Rendez-vous vers 5h-10 pour Burn to be Alive, le quiz qui nécessiterait vraiment une intervention divine pour que Stéphane l'emporte un jour. Mais tout de suite, découvrons notre premier confesseur célèbre de l'histoire. Stéphane Bern nous raconte François d'Aix de la Chaise.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Grâce à lui, sont réunis en un même lieu Édith Piaf, Jim Morrison et Marcel Proust, entre autres. Ce jésuite a donné son nom au plus grand cimetière parisien, le Père Lachaise. Mais avant d'être un nom de cimetière, il a été le confesseur du roi Soleil, Louis XIV. Stéphane Bern nous raconte François d'Aix de la Chaise.
34 ans. François d'Aix de la Chaise a été le conseiller, le confesseur de Sa Majesté le roi Louis XIV, dit le très chrétien, durant 34 longues années. De nombreuses rumeurs circulent d'ailleurs sur l'influence qu'il aurait pu jouer sur le monarque. Mais vous le savez, à la cour, il vaut mieux savoir rester discret, et ça, le confesseur l'avait bien compris. François Dex de la Chaise naît en août 1624 dans la Loire, près de Saint-Martin-la-Sauveté. Il est le second enfant d'une fratrie de 12 frères et sœurs. Après une première année de rhétorique au collège des Jésuites de Rouen, il étudie la philosophie et la physique à Lyon. Il enseigne la grammaire, la littérature. À 34 ans, il prononce ses vœux solennels et reste à Lyon jusqu'à son départ pour Versailles. Passionné par la numismatique, l'étude de la monnaie et des médailles, il a aussi à cœur de partager son savoir et enseigne pendant 7 ans la philosophie. Ses leçons sont très appréciées, il les rend vivantes, demande à ses disciples de choisir l'une ou l'autre thèse présentée avant de lui-même se prononcer. Mais François Dex de la Chaise est un puits de connaissances et dispense également des cours de physique. Là encore, il se distingue car il multiplie les expériences. Il ne fait pas de cours théorique, rébarbatif. Non, il veut pousser ses élèves à réfléchir jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toutes leurs ressources, qu'ils soient à court d'arguments. Les chroniqueurs de l'époque disent de ses leçons qu'elles attiraient de toutes parts, autour de sa chaire, de nombreux disciples. Pendant ce temps, à Versailles, Jean Ferrier exerce le poste de confesseur du roi, mais une maladie l'oblige à se retirer. Dans l'entourage de Louis XIV, on pense rapidement au brillant père de la Chaise pour lui succéder. Mais Louis XIV ne veut pas prendre de décision trop hâtive et tient absolument à rencontrer le père de la Chaise en personne. C'est chose faite. Au début de l'année 1675, le roi le convie au château de Saint-Germain-en-Laye. Il le reçoit avec bienveillance, lui explique en quoi consistera sa fonction et lui demande de revenir le dimanche suivant pour plus de détails. Louis XIV apprécie cet homme d'église pour sa sagesse, son écoute, mais aussi pour sa grande culture qui dépasse la sphère religieuse. Il en est convaincu, le père de la Chaise doit le rejoindre pour devenir officiellement en 1675 le conseiller en tous ses conseils d'État et privés comme confesseur. Pourtant, cette charge prestigieuse n'est pas si étrangère à François Dex de la Chaise. Il est le petit-neveu du père Coton, confesseur d'Henri IV, 100 ans après, il marche donc dans les pas de son grand-oncle. Mais les débuts comme conseiller et confesseur de Sa Majesté sont loin d'être faciles. Louis XIV est autoritaire et extrêmement puissant en Europe. Une décision politique religieuse peut conduire à un carnage diplomatique. François de la Chaise, jusqu'alors préservé de cette pression à Lyon, découvre un univers totalement étranger. Il s'en confie d'ailleurs dans une lettre. « Sans aucun doute, je ferai dans la mesure de mes forces tout ce que je pourrai pour ne pas faillir à ma mission. Mais à dire vrai, je suis comme accablé de confusion à me voir dans un poste qui exigerait un homme éminent en vertu et en mérite de tout genre. » La priorité du nouveau confesseur est de trouver les bonnes formules pour ne pas froisser un roi qui ne regarde pas la dépense, que ce soit en étoffe, bijoux, construction, mais aussi en guerre. Des frais colossaux qui accablent de plus en plus le peuple. Ses premières années sont chargées, il doit notamment conseiller habilement Sa Majesté sur le volet religieux, très sensible, en cette fin du XVIIe siècle. Lorsque François Dex de la Chaise entre officiellement au service de Louis XIV, il fait mouche auprès de son monarque et de la papauté en dénonçant discrètement les évêques jansénistes de plus en plus nombreux dans le royaume. Ces hommes, se revendiquant d'un catholicisme rigoriste, sont hostiles à Jésus, au trop grand pouvoir du Saint-Siège, et supportent de moins en moins l'absolutisme royal. Il est aussi d'un appui certain lors du dossier épineux de la Régale. Par un édit du 10 février 1673, Louis XIV impose que quand un évêque meurt, le roi devient l'usufruitier de son évêché. Mais des évêques s'élèvent contre cette pratique et en réfèrent directement à la papauté. Après de multiples échanges épistolaires, les opposants à la Régale s'en prennent directement au confesseur royal, lui reprochent de ne pas avoir su raisonner Louis XIV. La papauté menace même le roi de France. Il sera puni par Dieu pour ne pas s'être soumis à la demande du Saint-Siège. Le confesseur, qui est pris entre deux chaises, si je puis dire, entre d'un côté sa hiérarchie catholique et d'un autre son monarque, tente de régler le conflit habilement. Devant la colère de Louis XIV, il lui conseille de répondre avec bienveillance, sans lancer les hostilités. La prudence est mère de sûreté, mais faire entendre raison au roi Soleil n'est pas chose aisée, surtout quand il s'agit d'amour. Quelle position délicate pour cet homme d'église respectable, devoir composer avec les différentes maîtresses de Louis XIV. Celle que le confesseur aimerait voir s'éclipser en premier, s'appelle Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, plus connue évidemment sous le nom de marquise de Montespan. Elle est la maîtresse du roi depuis plusieurs années et leur liaison a donné naissance à 7 enfants. Il n'existe pas de traces des discussions entre le père de la chaise et Louis XIV au sujet de ses maîtresses, mais comme à son habitude, le confesseur ne provoque pas la discussion aînée, mais encore moins de jugement. Il laisse le temps faire son œuvre et il a raison. Car rapidement, la marquise de Montespan se retrouve au cœur d'un procès plus général sur l'affaire des poisons. On lui reprocherait, entre autres, d'être à l'origine de la mort de la nouvelle favorite du roi, la jeune duchesse de Fontanges.
C'est vraiment elle ?
Non. Ah. Enfin, elle faisait fabriquer des filtres d'ich pour garder l'amour de son bien-aimé. Oui, mais tout ça est lié à l'affaire des poisons, voyez-vous.
D'accord.
Par crainte du scandale, Louis XIV fait en sorte que la culpabilité de sa maîtresse soit écartée. Et pendant plusieurs années, Madame de Montespan cohabite avec sa très chère marquise de Maintenon qui élève ses enfants. En revanche, à la mort de la reine Marie-Thérèse en juillet 1683, il se peut que le confesseur ait joué un rôle de premier ordre dans la suite des événements. C'est lui qui aurait suggéré au roi d'épouser Madame de Maintenon, une femme très pieuse. Ce serait donc le seul moyen qui donnerait au souverain le repos de l'âme. Mais la marquise n'est pas de haute naissance et elle est veuve. Il s'agira donc d'un mariage morganatique avec une femme d'un rang inférieur. L'union se serait déroulée dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, en présence notamment du père de la chaise. Un mariage resté secret jusqu'au bout. Les années qui suivent et jusqu'à la fin de sa mission auprès du roi, le confesseur n'a pas une minute à lui. Il l'accompagne sur les champs de bataille. Il tente de le raisonner dans sa croisade contre les protestants après sa révocation de l'édit de Nantes. Le roi apprécie tellement son sage confesseur qu'il lui refuse à plusieurs reprises sa retraite. Finalement, le père François d'Aix de la Chaise s'éteint à 84 ans. Et petite confession, il ne repose pas au cimetière qui porte son nom, du père Lachaise, mais à l'église Saint-Paul-Saint-Louis, dans le 4e arrondissement de Paris.
Tiens donc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du père François d'Aix de la Chaise, nous sommes avec une auteure qui lui consacre une grande partie de son temps, Ken Potel. Bonjour Ken Potel.
Bonjour messieurs.
Bonjour Ken Potel, vous êtes une pionnière à plusieurs titres. Vous êtes la première femme européenne à avoir mis le pied sur l'île de Sibéru, d'abord en Indonésie en 1975, et première femme à être agent de protection rapproché à titre privé. Alors, quel lien avec notre père Lachaise me direz-vous ? Bah aucun. Et pourtant, vous êtes aussi la première femme à s'être intéressée à ce point, à la vie de François d'Aix de Lachaise, pour lui avoir consacré 4 tomes, paru aux éditions Nombre 7, Ken Potel, 4 tomes sans illustration. Est-ce que c'est tout juste suffisant pour résumer 34 ans de confession auprès du Roi Soleil ?
Ce n'est pas suffisant du tout, en effet. Les 4 tomes ne couvrent que à peu près 6 ans, c'est pas à peu près 6 ans du père à la cour. D'autres tomes sont à venir, il y en a 11 pour la première partie, et si on calcule bien, 17 pour la seconde.
Ah oui ?
Mais alors qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce personnage et... Vous avez envie d'explorer comme ça toute sa vie, toutes ces années auprès du roi ?
Bien parce que je n'aime pas l'injustice et je trouve qu'on n'avait pas assez parlé de ce père qui a eu quand même des rôles très importants dans la vie du roi Louis XIV. Donc il fallait absolument le réhabiliter et je me suis, du jour au lendemain, je me suis mise derrière ma table de travail et j'ai commencé à faire des recherches.
C'est un travail de titan, vous êtes lancé dans une aventure incroyable, c'est sous forme d'un journal. Combien d'années de recherche ça représente et sur la base de quoi vous vous êtes appuyé ?
Actuellement, j'ai 11 années et demie à peu près de travail à raison de 10 heures par jour quand même, je dirais 7 jours sur 7. Quant à mes outils, bien c'était les journaux d'époque, les mémoires, les lettres, les rapports, les comptes rendus d'audience et surtout le Mercure Galant, un mensuel qui était édité par Donaud de Vizet et le dictionnaire du 19e siècle que j'ai eu la chance de trouver au Centre culturel de Saint-Raphaël.
Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ? Parce que c'est vrai que le roi entendait la messe tous les matins, se confessait, je crois, une fois par semaine, non ?
Oui, absolument.
Et puis,
normalement, oui.
Normalement,
oui.
C'est ce qui. Et puis alors, il y a ces scènes qu'il faut que vous nous racontiez.
Ah oui.
C'est les Pâques. Le roi, pour faire ses Pâques, était obligé d'écouter les conseils du père Lachaise.
Absolument. Et alors, le père Lachaise, dès le départ, lui avait intimé l'ordre, entre guillemets, intimé l'ordre, de se mettre à genoux devant lui pour se confesser. Et le roi, c'était exécuté sans discuter, et à chaque fois, donc c'était comme ça que le Père Lachaise le confessait. Ce qui était quand même un moment, parce que quand même le roi Louis XIV, à genoux devant son confesseur, c'était quand même quelque chose. On peut imaginer la scène.
Oui, c'est vrai que le roi ne ployait le genou devant personne. Eh bien, on va continuer à parler de nos confesseurs de l'histoire et de François d'Aix de Lachaise, confesseur de Louis XIV en particulier, avec notre invité qui est passionnante et passionnée, Ken Potel sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Je dois vous faire une confession, Stéphane.
Oui, allez-y.
Aujourd'hui, on parle des grands confesseurs de l'histoire. Mmh. Et parmi eux, il y a évidemment le confesseur de Louis XIV, le personnage, notre premier personnage de la journée, François d'Aix de Lachaise, qui a donné évidemment le Père Lachaise. Ken Potel, qui lui a consacré, on peut dire, une encyclopédie, est avec nous. Déjà 4 tomes publiés, et c'est pas terminé, vous nous l'avez dit. Rien ne semblait prédestiner le Père Lachaise à la cour. Vous qui avez parcouru sa vie dans les moindres recoins, quelles étaient les qualités qui ont fait qu'il est devenu le confesseur du roi Soleil?
Eh bien, on sait que le roi Soleil aimait déjà l'esthétisme. Donc, quand Père Lachaise lui est apparu, il a vu qu'il avait beau physique, qu'il était bien fait de sa personne et portait une élégance naturelle. Il y a le côté aussi très modéré. Vous avez compris qu'il ne fallait pas prendre le roi de front. Ça, vous le savez. Il était fidèle. Et puis, c'était un spécialiste des médailles. Et le roi a découvert, hormis l'érudition générale, le roi a découvert cette passion mutuelle qu'ils avaient. Et là, ça a aussi versé, si vous voulez, sur son assentiment pour le prendre comme confesseur.
On peut rappeler que le roi avait ce qu'on appelle le cabinet des médailles, qui était à Versailles, où il avait une collection extraordinaire, vraiment la première d'Europe. Une chose quand même, il le prenait jamais de front. Comment, par exemple, pour les Pâques, lui expliquait-il qu'il fallait qu'il renonce à ses amours extra-conjugales pour se rapprocher de la reine et voilà, parce qu'il était obligé, pour faire ses Pâques, d'écarter les maîtresses. Alors comment est-ce qu'il lui présentait la chose?
Eh bien, il y a eu quand même un cas de conscience, parce que le roi, naturellement, ne pouvait pas faire ses Pâques, normalement, puisqu'il était en adultère. Et le Père Lachaise, une année d'ailleurs, a complètement refusé de lui donner l'absolution, et il est parti. Il est parti. Donc le roi était pendant un an sans avoir fait ses Pâques réellement.
Mais les maîtresses ne se mettaient pas en retrait pendant Pâques, justement, parce que c'était un moyen, finalement, le Père Lachaise aurait pu dire au roi, bon, écartez votre maîtresse et je vous donne l'absolution pendant Pâques.
Oh là là, alors là, nous, on va reprendre quand même le problème de Madame de Montespan, puisque c'est elle qui était très religieuse aussi. Et elle était malade de ne pas pouvoir recevoir l'absolution. Et elle a eu de gros problèmes, elle, en revanche. Personne n'a accepté de confesser Madame de Montespan tant qu'elle était avec le roi. Ça a été, pour elle, ça a été un drame, vraiment, parce que elle faisait ses Pâques, elle faisait tout ce qu'il fallait, les fêtes religieuses, elle les suivait. Et là, elle a été vraiment très meurtrie, on peut dire ça.
Pour qu'on comprenne bien, Ken Potel, sur une journée type du roi, combien de temps il passait avec son confesseur?
Il y avait le mardi et le vendredi où il pouvait se voir tout au début. Et puis ensuite, ça a été plutôt dilettante. C'était quand un des deux avait quelque chose d'important à dire. Et puis, il y avait les événements du monde, je dis bien du monde, parce que la cour de Rome, vous savez bien, réagissait à beaucoup de choses. Et il fallait absolument parler tout de suite et réagir tout de suite.
Le Père de Lachaise vivait à Versailles, j'imagine. Il était obligé de faire sa cour.
Eh bien non, justement, il ne voulait pas faire sa cour. Il n'était pas obligé de vivre à Versailles réellement, parce que son ordre l'obligeait normalement à rentrer tous les soirs à la maison professe. Il ne devait pas vivre près de son pénitent. Mais comme le roi lui avait octroyé un appartement et que vraiment c'était fatigant, il y en avait pour 2h30, quelquefois 3h si tout se passait bien, pour faire l'aller-retour Paris et plus. Bon, donc et bien petit à petit, le Père Lachaise est resté beaucoup plus souvent à Versailles, parce qu'à ce moment-là, s'il y avait des problèmes, bon, il y a eu l'opération du roi par exemple, il a fait les grandes opérations, il a fallu qu'il soit là tout près. D'ailleurs, il a assisté. Parce qu'il fallait, si le roi venait à faillir, il fallait lui donner tout de suite, bon, vous avez compris l'histoire.
L'extra-onction, bien sûr. Regarder Louis XIV à travers la figure de son confesseur, c'est un peu comme regarder à travers le trou de la serrure. Qu'est-ce que vous avez appris, Ken Potel, sur le comte de Louis XIV que vous ignoriez grâce au père de Lachaise?
Eh bien, quelque chose qui est quand même très important et dont on cherche, et on trouve d'ailleurs, le secret de la naissance du roi.
C'est-à-dire ?
Mais si je m'étends, je vais dévoiler quelque chose, les historiens risquent de me tomber sur le dos, et pourtant...
Ah ben, dites-nous.
Bon. Richelieu a prouvé que Louis XIII ne pouvait pas être le père de Louis XIV.
Mais alors imaginez. Là, vous verriez la tête de Stéphane, Ken, il est...
Ah oui, imaginez.
Les yeux révulsés.
Mais je ne suis pas la première à en parler.
Oui, oui.
Je crois que les historiens, justement, ont mis le doigt dessus. Sinon, je n'aurais pas inventé une chose pareille. C'était trop énorme. Et une question de date. Et Richelieu, qui était quand même toujours aux aguets, qui en voulait à la reine Anne, qui était d'ailleurs, normalement, qui aurait dû être banni, même passé par les armes. Et il avait compris que l'enfant ne venant pas, ce n'était pas Louis XIII qui n'avait pas touché cette femme, qui n'a jamais touché cette femme d'ailleurs de toute sa vie. D'un seul coup, hop, 10 ans, 15 ans après, il se serait réveillé pour dire « Ah bah oui, tiens, ce jour de pluie, ça m'a fatigué » ou je sais pas quoi. Donc c'était impossible. Alors Richelieu démonte toute cette histoire et connaît le secret de la naissance du roi. Et par des bords, donc j'apprends, quand je dis j'apprends puisque je prends le rôle du confesseur, j'apprends ce qu'il en est du masque de fer.
Ah non, alors si vous avez le masque de fer, alors dites-le nous, parce que moi, c'est mon intrigue préférée de toute l'histoire de France.
Je ne peux pas vous le dire.
Ah non, mais vous le savez.
Non, je ne m'autorise pas à le dire, parce que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas historienne, et vraiment, je ne peux pas le dire. Voilà. Donc,
mais qui est le père de Louis XIV, alors?
Ça non plus, je ne peux pas vous le dire. Bon, je le dévoile dans mes livres qui ne sont pas encore, dans les tomes qui ne sont pas encore sortis. Il vous faudra encore attendre.
Ça, c'est du teasing.
Et si toutefois il y a des historiens qui veulent bien vous parler et vous donner leur avis, je préférerais. Mmh. Voilà, je ne prends pas, je suis peut-être un peu lâche, mais je ne veux pas prendre cette responsabilité.
Je comprends. Non, mais tout ça est dans les textes du père de Lachaise. Donc le roi Louis XIV lui avait confié qu'il n'était pas le fils de son père.
Et voilà. Il faut faire beaucoup de recherches. Parce que je ne l'ai pas inventé, ça n'est pas possible, hein. J'aurais inventé les noms, j'aurais inventé beaucoup de choses, c'est impossible, ou alors j'aurais vraiment beaucoup d'imagination.
Ken, peut-être juste un dernier mot peut-être sur la longévité du père Lachaise auprès du roi Louis XIV. 34 ans, c'est immense, surtout à l'époque, hein, disons que c'est la moitié d'une vie. Comment vous expliquez cette longévité?
Oh, parce que d'abord il était très fidèle, il écoutait, le père de Lachaise était quelqu'un qui était quand même réfléchi, qui avait une érudition, qui aimait les arts. Alors ça avait attiré aussi beaucoup le roi, parce qu'il pouvait parler de tout. Il lui montrait son cabinet de curiosité. Naturellement, quand il se voyait pour les médailles, pour les pièces, c'était un grand moment. Le père parlait latin, il lui apprenait comment lire sur les pièces aussi. Il lui apportait beaucoup. Donc le roi se trouvait bien équilibré avec lui. Une fois qu'il s'était débarrassé de Madame de Montespan, entre guillemets débarrassé, parce qu'il s'en est jamais débarrassé, bien sûr, mais disons que son esprit n'était plus axé sur Madame de Montespan, à ce moment-là, le confesseur a eu quand même un petit peu plus de poids. Et il a eu, il l'a aidé dans beaucoup de choses, et en plus, il s'est rapproché de la reine avec quand même la complicité de Madame de Maintenon. Le roi est devenu un peu plus religieux, et puis voilà. Et surtout, il était affable, ce confesseur, persuasif, équitable. Là aussi, c'était important pour le roi. Il ne fallait quand même pas faire n'importe quoi. Il était médiateur.
En tout cas, vous en parlez merveilleusement bien. Merci Ken Potel d'avoir été avec nous. Pour tout savoir, vraiment tout, sur François Dex de Lachaise, je conseille à nos auditeurs de se plonger dans vos livres, Journal du père de Lachaise, confesseur de Louis XIV, dont les 4 premiers tomes sont parus aux éditions Nombre 7. J'aime autant vous dire que là, à partir d'aujourd'hui, on attend avec impatience les prochains tomes pour savoir qui est le père de Louis XIV,
qui est le masque de fer,
etc. Donc, j'espère que vous allez l'écrire et nous le dire, voilà.
Eh bien, écoutez, c'est écrit, d'ailleurs. Ah. Ça y est, il n'y a plus qu'à les éditer.
D'accord. Donc la bombe est prête à
exploser. Merci beaucoup.
Elle est prête. Il n'y a pas de problème.
Très bien. Ben, merci beaucoup.
Merci, Ken
Potter. De rien. Merci beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, des secrets, des secrets de famille. Et c'est un peu comme les bijoux de famille.
Oui, et puis, mais en fait, c'est surtout que l'insinuation perfide selon laquelle Stéphane vous descendriez en droite ligne de Robespierre m'a incité à m'intéresser aux secrets de famille qui sont quand même par excellence ce qu'on livre à son confesseur. Alors aujourd'hui, on parle génétique et généalogie. J'ai lu pour vous « Quoi de neuf dans la famille ?», un livre qui vient de paraître chez Buchet-Chastel et qui est écrit par un généticien et un généalogiste, Jean-Louis Bocarno et Nathalie Jovanovic-Floricourt. Et cet ouvrage est le premier à relier la généalogie aux découvertes génétiques. Donc Mathieu, vos ancêtres étaient-ils vikings, gaulois, visigoths?
Ils étaient corses.
Et faut remonter plus loin.
En France, on n'a pas le droit de faire des tests.
Mais exactement.
Je sais pas comment s'appellent ces tests. Comment il y a un laboratoire israélien qui le fait.
Mais tout à fait. Mais il y a plein de labos qui le font. Ouais, mais en tout cas, je sais pas si vous êtes corse, mais maintenant, grâce à ces tests, on peut remonter jusqu'à l'âge de bronze.
L'âge de bronze.
Et oui, en mars 2020, plus de 32 millions de personnes dans le monde ont fait un de ces tests ADN. En France, depuis qu'on peut se les procurer sur Internet, ça concerne quand même 100 à 200 000 personnes.
Bien sûr,
mais attention, messieurs, en France, ces tests, oui, Stéphane, vous le disiez, sont interdits. Avec la Pologne, la France est le seul pays de l'Union européenne. Alors, il n'y a pas vraiment d'argument, en fait. Notre avant-dernière ministre de la Santé, Agnès Buzyn, arguait que cela allait engendrer des drames dans les familles, puisque, disait-elle, 15% des Français n'ont pas le père biologique qu'ils croient avoir.
Or, 15%, ça fait beaucoup.
Mais c'est totalement faux, c'est pas 15%. C'est 1%.
Vous dites que Agnès Buzyn dit des choses fausses.
Ah ben là, elle s'est trompée.
C'est vraiment étonnant.
Me semble-t-il, si je puis me permettre.
C'est le seul domaine où elle s'est trompée.
Alors, en tout cas, ça serait 1%. Alors, l'autre argument de la ministre, c'est que ces tests sont des tests récréatifs. Mais pas du tout. Ces tests peuvent littéralement changer une vie. Donc, avec ce livre, il ne s'agit pas d'encourager le lecteur à adopter un comportement illégal, mais de l'éclairer sur ces tests, leurs principes et leurs enseignements. Et ce livre commence avec l'extraordinaire histoire de cette dame née sous X. Ce qui est quand même une particularité française, la naissance sous X. Elle n'a aucun renseignement sur elle. Elle ne sait pas du tout d'où elle vient. Elle a renoncé depuis des années à chercher ses origines. Il n'y a rien, rien dans son dossier d'adoption. Ses enfants lui offrent un test de ce genre qui lui dit qu'elle relève à 80% du groupe asiatique de l'Ouest. Elle se regarde dans la glace. Elle se dit, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement bidon? Je ne suis pas du tout, je ne viens pas d'Asie de l'Ouest. Bon. Et ce test lui révèle autre chose, parce que quand vous faites un test de ce genre, vous avez la possibilité de rentrer votre arbre généalogique et ça fait des matchs. On va vous dire.
Mais là, en l'occurrence, elle n'avait pas d'arbre généalogique.
Mais oui.
Non, elle n'avait pas. Non, mais elle peut vous rentrer vous accepter que votre test soit matché avec d'autres, si vous voulez. Et ça matchait avec deux personnes dont elle a réalisé que c'était son demi-frère et sa demi-sœur, qu'ils étaient en fait, elle était arménienne. Et oui, parce que dans cette marque de test, eh bien tout ce qui était Arménie, c'était classé dans asiatique de l'Ouest, alors que pour d'autres marques de test, ça sera Turquie et Caucase ou Asie mineure. Et donc elle a pu retrouver des demi-frères et sœurs et savoir enfin qui étaient ses parents. C'est pas beau ça. Et ce test permet d'identifier toute personne qui a un ancêtre commun en remontant sur 200 ans. Voyez-vous, au Chili, il y a eu 20 000 enfants volés durant la dictature de Pinochet entre 79 et 90. Des groupes de recherche se sont constitués sur Facebook et en 3 ans, grâce à ces tests ADN, une centaine d'enfants ont retrouvé leurs parents. Dans l'Espagne franquiste, il y a eu jusqu'à 300 000 enfants républicains, enfants d'opposants politiques qui ont été retirés à leur mère. On les déclarait morts-nés. Mais là encore, là où il n'y avait absolument plus aucune archive, l'ADN a permis d'avancer. Vous avez donc la possibilité de remplir ou pas un arbre généalogique. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de match possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous voir, Stéphane et Mathieu, en disant « Je suis ton petit frère, ta petite sœur et ton grand-oncle. Bon, » Votre profil génétique
en même temps,
ne
fort.
Sera pas rapproché des autres. Mais si vous acceptez que le logiciel cherche ces matchs, ça peut donner des résultats incroyables. Un Américain dont la famille est sur le territoire depuis le XVIIe siècle, a toutes les chances de retrouver dans les 15 à 30 000 cousins plus ou moins proches parmi les 16 millions d'Américains qui se sont fait tester. Et ce livre est vraiment plein d'histoires extraordinaires.
Oui, mais encore faut-il que, pour matcher avec d'autres, il faut qu'eux aussi aient été testés.
Oui, bien sûr.
Comment en France, c'est plus compliqué, puisque très peu de gens ont fait ça.
Mais Stéphane, ça n'est qu'un début. Là, y a, depuis que ces tests existent, je le disais, 100 à 200 000 personnes par an l'ont fait. Mais
vous l'avez fait?
Moi, je l'ai fait, du coup.
Mais oui. C'est illégal.
Et c'est tout à fait illégal. Oh, et je bats ma couille, car je suis dans cette émission sur la confession. Et quoique protestante, eh bien, j'accepte mon père de confesser que oui, je l'ai fait, parce que je serais bien curieuse de savoir. Non, moi, ce qui m'amuse, et je pense comme tout le monde, c'est vrai que ça, c'est l'aspect récréatif de ces tests, c'est de savoir de quel pays vous venez. Ouais. Si j'ai du sang carthaginois, moi, je pense, je vais trouver Carthage, l'Écosse. Mais je n'ai pas encore les résultats. Je les attends.
Alors, ça met combien de temps?
C'est 3 semaines. 3 à 4 semaines, vous les avez sur Internet. Alors, écoutez plutôt cette l'histoire de Wilburn Cliff, un GI qui débarque à 19 ans à Omaha Beach et il se retrouve en 45 en Allemagne à Mannheim. Il est blessé. Il est soigné par une jeune infirmière française, sœur d'un résistant. Il tombe amoureux. Il veut l'épouser et rentrer avec elle aux États-Unis. Elle refuse parce que son frère est mort à Buchenwald et sa mère n'a plus qu'elle. Donc elle ne veut pas priver sa mère de sa présence. Elle reste en France, elle se sacrifie. Wilburn Cliff repart aux États-Unis. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle est enceinte. Un fils naît qui porte le nom d'André, comme le frère mort en déportation. Il fait des recherches pendant des années auprès des GI, mais vous imaginez, Cliff, enfin, il y en a des milliers, comment savoir? Bon, il ne trouve rien. Et c'est là que ses enfants lui offrent un test. Et sur Internet, bingo, génétique, il matche avec un homme qui s'avère être son demi-frère, qui lui ressemble comme une goutte d'eau. Et voilà, en 2018, ils sont allés ensemble sur les plages du débarquement à Omaha Beach. Alors, des histoires de ce genre, il y en a des dizaines dans ce livre passionnant. Il y a aussi des histoires plus connues, comme le fils d'Hitler, la fausse Anastasia, le cœur du dauphin Louis XVII, et les enfants cachés des people. Et je ne résiste pas, je vous en cite une pour la bonne bouche. En 2009, Lisa Lanette, une dame de 87 ans, a révélé qu'elle avait eu un enfant avec JFK. 7 ans avant son mariage avec Jackie Kennedy, quand il était encore un jeune officier de 29 ans. Elle l'a rencontré en 44. Elle a eu de lui un fils qui s'appelle Antonio Boller. JFK lui avait d'ailleurs proposé de l'épouser. C'est elle qui n'a pas voulu. Elle a poursuivi sa vie de femme libérée. Elle a eu 6 maris et mené une carrière de danseuse et de comédienne. Et bien, dans cette histoire, seul l'ADN peut permettre de trancher définitivement, de nous dire si cet homme, qui est tout à fait encore en vie, est ou non le fils de JFK. Comme pour vous, Stéphane et Maximilien de Robespierre. Mais en l'occurrence, je crois plutôt que de croiser vos ADN, on aura plus vite fait de mettre la main sur le petit malin qui fait mumu sur votre page Wikipédia. Sur ce, amen. Allez en paix, mon fils.
On a perdu Clémentine.
Beaucoup de monde surréaliste à cette famille dans cette émission Confession.
Merci Clémentine. Et pour ceux que ça intéresse, Quoi de neuf dans la famille, écrit par Jean-Louis Bocarnot, qui est un grand spécialiste, il faut le dire, un grand généalogiste, et Nathalie Jovanovic-Floricourt, paru aux éditions Buchet-Chastel. Je vais m'empresser de l'acheter. Vous croyez qu'on peut faire ça? Vous avez fait ce test?
Moi, franchement, ça me donne envie de le faire. Oui.
Moi aussi.
Je trouve ça intriguant.
C'est-à-dire, tout ce qui est interdit nous donne envie. C'est ça.
Mais avant le test, il y a une épreuve encore plus difficile, Stéphane.
Est-ce qu'on peut pas faire l'un ou l'autre?
On peut pas inverser, celle-ci est légale. C'est le quiz. Tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il a beaucoup prié pour les autres.
Le Seigneur bénit et protège notre souverain, le grand-duc Jean, et son auguste épouse, la grande-duchesse Joséphine.
Mais pas assez pour lui. Il aurait toujours à perdre.
C'est pas vraiment l'idée.
La prière ne sert à rien, là,
comment
en l'occurrence.
Comment ça ne sert à rien?
Mais non, mais c'est, vous avez vu les questions de votre quiz, Mathieu Noël?
Mais vous priez pour gagner, pour avoir une chance ou...
Vous priez pour avoir des bons résultats.
Non, mais ça, c'est vraiment... Mais vous rendez compte, c'est vraiment une conception césaro-papiste, ça. Je prie pour moi. Mon Dieu, faites que j'ai le baccalauréat.
J'avais pas pensé à ça. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. On a tous en tête le sceptre de Saint-Louis, ce bâton de commandement surmonté d'une fleur de lys. Eh bien, François Ier en avait un également, mais il ne le sortait jamais. On l'appelait le bâton de Nazazie. Vrai ou faux?
Alors là...
Normalement,
je suis comme deux ronds de flan, si je puis me permettre.
Vous n'avez jamais entendu parler du bâton de Nazazie?
Jamais.
Vous non plus?
Non.
Le bâton de Nazazie.
Bravo les historiens. Hein. Soi-disant, ça touche sa bille.
Eh ben non, moi je dirais non. Parce que
vous dites
sinon...
non. Non,
moi je dirais non aussi. Oui, faut. Ça ne me dit rien, le bâton de Nazazie.
Vous avez
Mais oui, c'est une bonne réponse. Le bâton de Nassazi est un trophée virtuel au foot. En 1930, c'est la première Coupe du Monde. Elle est remportée par l'Uruguay. Le capitaine de l'équipe est José Nassazi. On a décidé que l'Uruguay devenait l'équipe qui détenait le bâton de Nassazi. Oui, c'est parce qu'on a tellement vous dit oui, bien sûr, François Ier. Et dès qu'une équipe le bat, match après match, elle récupère ce trophée. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui l'a, mais ça peut changer très vite. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine Tortier-Kaltenbach, Joseph Pujol a été pendant un mois ministre sous la Troisième République d'un ministère qui n'existait que 3 mois, dans un gouvernement qui n'existait que 4 mois. Vrai ou faux ?
Écoutez, c'est tout à fait possible, car dans mon souvenir, c'est sous la 4e République ou la 3e ?
La 3e.
Je crois que la 3e République, c'est 65 gouvernements, et la 4e, je pense que c'est 24 ou 26 gouvernements, on a un temps encore plus limité. Donc, les ministères se faisaient et se défaisaient au gré des majorités parlementaires, c'est-à-dire éventuellement en une nuit. Donc, le nom de ce monsieur ne me dit rien, mais qu'il ait pu être ministre dans un ministère extrêmement éphémère, je le crois volontiers. Je réponds oui.
Elle répond oui, le raisonnement est excellent.
Vous avez perdu.
La réponse, elle, l'est moins. Joseph Pujol n'a pas été homme politique. Il est né à Marseille en 1857.
Et il a inventé la nisette et le savon de Marseille, c'est
mieux.
Ça
Il reste à ce jour le pétomane le plus connu du monde.
Bien, oui,
il s'est produit au Moulin Rouge. Il était capable d'éteindre une bougie avec un hutte dièse.
Le pétomane, oui, bien sûr.
Et en 1900, pendant l'exposition universelle de Paris, il est même filmé par Thomas Edison. Il est mort ruiné à 88 ans. Rest in peace, monsieur Pujol.
Oui.
Repose en paix.
Cela dit, Mathieu, pour ma défense, si on devait faire le compte de tous les ministres de la Troisième République, j'ignore. À mon avis, on en trouverait 200, 300, 500.
C'est plausible.
Vous avez zappé le jeu de mots de Mathieu.
Oui, non, mais Elsa, parce qu'elle est dans son truc.
Quittez, Joseph.
Restez en paix.
Oui, oui.
Pour un pétomane.
Oui, 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 c'est
oui,
drôle.
Oui, mais il le dit. Ah, excusez-moi, oui, c'était oui, très, très drôle.
C'était très, très drôle, bravo. Et je vous prie je vous remercie de le souligner. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Le 5 juillet 1954, Elvis enregistre à Memphis.
Ça, c'est bien fait pour vous. Oui, pardon.
C'est une question historique.
Oui.
Elvis. Non.
C'est une question de. Non, on peut passer de François Ier. Passer de François Ier à Elvis, c'est le cœur même de cette émission, en fait. Oui. Donc, concentrez-vous. Le 5 juillet 1954, Elvis enregistre à Memphis.
Well, that's all right, mama. That's all right for you.
Elvis était blond. Vrai ou faux?
Bah oui. Elvis Presley était-il blond en 1954? Voilà. C'est-à-dire, je vais donc être jugé
là-dessus.
Sur mes compétences
vous
historiques.
Vous pouvez tout perdre là-dessus.
Oui,
vous pouvez s'arrêter. Une belle carrière. Rondement
est-ce
menée.
Je pense que les auditeurs d'Europe 1 maintenant ont quelque indulgence par rapport à nos résultats dans ce quiz. Je dirais, j'ai jamais vu blond, mais là,
blond.
Pour vous faire plaisir. Sinon, la question n'aurait pas de sens.
Ça serait bizarre. Mais il aurait pu être roux. Je ne sais pas, Stéphane, je ne sais pas.
Je dirais blond, allez.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, Stéphane. Vous connaissez bien l'histoire. Et vous l'avez encore prouvé cet après-midi sur Europe 1. Il était blond, Elvis. Blond cendré, pour être précis. Puis il a fait des teintures noires à partir de 21 ans, en 1956. Donc en 1951, il était bien blond. C'est une bonne réponse,
quelle
de
drôle d'idée. Pourquoi cet homme qui était beau comme tout, quelle drôle d'idée d'aller se teindre les cheveux en brun comme ça, enfin.
Mais peut-être c'était la mode du brun. Ou pour un rocker, c'était
non,
mieux.
Parce qu'à l'époque, Marilyn Monroe, qui était brune, on l'a obligé à se teindre en blond. Façon Jean Harlow. Donc vous pensez que le blond était à la mode pour les femmes,
oui,
et le brun pour les hommes.
C'est ma théorie, effectivement, théorie historique intéressante.
Bien sûr.
Et il y aura certainement des thèses qui seront pondues là-dessus. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Qui n'a jamais eu la Légion d'honneur ? Pétain, Bachar el-Assad, Nicolas Ceausescu, Mussolini ou tout le monde l'a eu ?
Alors, je pense que Pétain l'a eu naturellement pour sa très belle campagne de France pendant la guerre de 14. Est-ce que Mussolini a pu l'avoir et est-ce qu'elle lui aurait été donnée par l'État français entre 40 et 45? C'était touchy quand même. Ceausescu a tout à fait pu l'avoir.
Il l'a eu. Il l'a eu.
Bien sûr, comme un certain nombre de dictateurs l'ont eu.
Il a eu même un très haut grade.
Et quel était... Voilà,
je crois qu'ils l'ont tous eu. Ouais.
C'est fou.
Ils l'ont tous eu, probablement.
Toute la liste que j'ai donnée, ils l'ont tous eu.
Il en manquait un, attendez. Ceausescu, Pétain,
Bachar el-Assad, Nicolas Ceausescu, Mussolini.
Ils l'ont tous eu.
Ils l'ont tous eu.
Oui.
Vous avez... gagné.
Vous avez gagné.
Ah oui.
Mais c'est Stéphane qui a gagné le quiz. Mais je donne la réponse précisément. C'est vrai que c'est important. Le commerce aussi. Le ministre du commerce, Lucien Dior, l'a donné à Mussolini. Figurez-vous. C'est pas dans quelles circonstances. On dit que les Français sont membres de la Légion d'honneur. Du coup, on peut en être exclu. Alors que les étrangers sont décorés. Donc, ils l'ont à vie. De Gaulle a décoré Nicolas Ceausescu. Bachar el-Assad arrive au pouvoir en 2000 et il est décoré l'année suivante. Quant à Pétain, il l'a eu puis il a perdu. Car reconnu coupable d'intelligence avec l'ennemi. C'est la fin de ce quiz, remporté triomphalement sur une question très pointue d'histoire moderne.
Mais de blondeur ou
blondeur
pas
de... d'Elvis Presley. C'est une magnifique victoire de Stéphane Bern.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Des confessions, on en fait tous, parfois un proche, un collègue. Stéphane Bern, par exemple, nous raconte souvent, pour soulager sa conscience, ses petits 5 à 7 furtifs dont il a un peu honte après coup.
En 6 minutes, douche comprise.
Sans qu'on sache si c'est du principe ou de la performance qu'il a honte. Mais dans l'histoire, il y a de meilleurs confesseurs que moi, Stéphane.
Oui, et c'est le point commun de nos personnages du jour, Mathieu. Les confesseurs célèbres. Après François d'Aix de Lachaise, qui a confessé le roi Louis XIV, le roi Soleil.
Non, pas le roi Louis Soleil, qui est un autre roi moins connu.
Je vais vous parler d'une pionnière de la confession radiophonique qui a écouté la France entière et que la France a écouté aussi, Ménie Grégoire. Ah, et de votre côté, mais oui, c'est mes jeunes années. Mais oui,
appelait.
Évidemment. Non, j'appelais pas, mais j'écoutais. Puis ça, on se rinçait l'oreille, si je puis dire. Et de votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un confesseur cathodique qui a marqué les années 90.
Oui, c'était d'ailleurs la question que vous vous posiez entre Jean Duchovise au tournant des années 2000. Au fait, t'as fait ton fréquent star, toi ? Avoir fait ou pas son fréquent star permettant de distinguer les vraies stars des fausses. Je vous raconte l'histoire de Laurent Boyer.
Oui, il y avait par exemple Séverine Ferrer. Et c'est vous dire. Alors,
et Séverine Ferrer, elle a pas fait son fréquent star.
Si, elle a eu un fréquent star aussi, non ?
Mais je pense pas, c'était vraiment les grosses stars qui faisaient pas de...
Sans vouloir être
injuste pour Séverine Ferrer, mais je crois qu'il y avait que Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, tout ça, non ? Ah non, vous pensez que ça a été... Ah oui, vu les yeux que fait Stéphane, visiblement, ça a été ouvert à d'autres catégories de stars. D'accord.
Non, il y avait plein de stars, oui.
Mais
oui.
Pas vous.
Non, mais moi, je commençais tout juste.
Vous commencez, vous étiez déjà une rosta, comme dirait David, enfin.
Alors justement, David est là.
Oui, il est là.
Et David nous raconte les origines, alors on s'inquiète, il a fumé.
Oui, les origines du filtre à cigarette. Oui. Hein, c'est ce petit cylindre de fibre qu'on met devant la cigarette pour faire semblant qu'on filtre quelque chose.
Exactement, pour garder le goudron, j'imagine.
Évidemment. À ses côtés, Stéphane, avec cet air à la fois gourmand et vicieux, propre aux Belges, un individu qui a récemment confessé s'être livré à un sombre trafic de code-barres de bouteilles de vin, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour mes amis, rebonjour plutôt. Et ben moi, je vais vous emmener cuisiner du poisson. Mais quel poisson ? Probablement l'un des meilleurs, la seule. Et je vais vous la faire meunière. Mais d'où vient cette manière de cuisiner à la seule ? Quels sont ses secrets pour la réussir ? Et puis la recette qui va avec ? Eh bien, c'est tout à l'heure.
Le mot de la fin, Stéphane, vous l'aurez aujourd'hui, comme d'habitude. Vous nous parlez des femmes, Stéphane.
Les femmes, je vous aime. Oui, femmes. Pourquoi on appelle les femmes ou la femme ? C'est la journée de la femme lundi prochain.
Pourquoi on appelle femme, femme ?
Oui.
Alors loin, que, là.
Ben oui.
L'étymologie du mot. Quoi.
L'étymologie du mot femme.
Exactement.
Ah oui, ça, on n'y avait jamais pensé, tiens.
Alors que dans d'autres langues, woman, mouillère...
Mouillère, ça c'est les œufs mouillés.
Les
mouillettes pour les...
Mourère. En portugais, mouillère.
Ah, en portugais, vous avez tenté le portugais, vous avez tenté l'espagnol et vous... Vous avez raté l'espagnol.
J'ai fait coup de bol.
Il a raté l'espagnol, coup de bol en portugais, ça veut dire quelque chose.
J'ai fait un
portignol. Bon, et tout de suite, découvrons les amis l'histoire de celle qui a confessé à l'appel sur les ondes. Stéphane Bern nous raconte Ménie Grégoire.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Louis XIV, nous l'avons vu, Stéphane avait son confesseur particulier en la personne de François d'Aix de Lachaise. Pas moi, je cherche un confesseur, mais personne ne veut me prendre. Si j'ose dire. Mais les 55 millions de Français qui ont connu les années 70, dont vous, Stéphane, ont eu droit, eux aussi, à leur confesseuse. Je me risque à dire confesseuse, car c'est une femme, mais aussi une consoeur, surnommée la Dame de Cœur, qui pendant 14 ans a écouté à la radio les problèmes des auditeurs. Stéphane Bern nous raconte Ménie Grégoire.
Il est 15h05, Ménie Grégoire répond à votre courrier. C'est avec cette phrase que l'émission tant attendue de Méné Grégoire débute chaque après-midi de 1967 à 1981 sur l'antenne d'RTL. Une oreille attentive et bienveillante qui a mis un baume sur le cœur blessé de millions d'auditeurs, mais surtout d'auditrices. Voici quelques extraits des 100 000 lettres que Méné Grégoire a reçues pendant toutes ces années. Mon mari est alcoolique, violent, il ne m'aide pas dans les tâches ménagères. J'aimerais reprendre un travail, mais mon époux dit que ma place est à la maison. Chaque jour, dans son studio capitonné sans fenêtre, Méné plonge sans retenue dans ces histoires que l'on n'avait encore jamais entendues à la radio. Elle ne connaît pas à l'avance la raison de l'appel, et elle y tient. La réussite du programme réside dans la spontanéité des auditeurs et de l'animatrice. Avant cela, rien ne prédestine Méné, 48 ans, à devenir la nouvelle reine des ondes. Avant 1967, elle n'a jamais travaillé en radio et pourtant, le nouveau directeur de la station a fait appel à elle après avoir lu ses articles dans différentes revues. Au départ, Méné est censée intervenir dans une émission le matin. Go et Millot répondent à des questions sur la cuisine. Un vétérinaire donne des recommandations sur les animaux et Méné, elle, doit conseiller les femmes dans leur tracas quotidien. Mais les auditrices, trop timides pour s'épancher, n'osent pas appeler. Méné propose alors de lire et de répondre chaque jour en direct à l'un des nombreux courriers qu'elle reçoit au magazine Elle. Dès le lendemain, le standard de la radio est inondé d'appels et les jours suivants, de nombreuses lettres lui sont adressées. Pour son patron, c'est un signe. Méné doit avoir sa propre émission. 30 minutes tous les après-midi, 15 heures, l'horaire idéal, les maris sont au travail, les enfants à l'école. L'objectif est clair, capter l'attention des femmes. Et ça marche. Elle représente entre 80 et 90% des auditeurs, car pour la première fois, une émission parle d'elle. Couple, famille, épanouissement personnel, Méné ne néglige aucun sujet. Elle sent que son émission est représentative d'une société en profonde mutation. Voilà comment elle décrit sa mission à la radio. « Je voudrais éclairer les hommes sur ce que sont devenues les femmes et leur dire comment elles sont faites de l'intérieur. Elles ont tellement changé. » Quand Méné prend la parole pour la première fois sur les ondes, les femmes ont encore un long chemin à parcourir. Le divorce par consentement mutuel n'existe pas, l'avortement est interdit, les femmes ne peuvent pas prendre un travail sans l'autorisation de leur mari, seul le père détient l'autorité parentale sur ses enfants. Et à cette époque, il faut se rappeler aussi que c'est le début de la pilule qui a été légalisée en 1967 et que beaucoup de femmes étaient encore ignorantes sur la contraception. Grâce à Méné, elles ont appris. Pour ces femmes, souvent emprisonnées dans une existence routinière, écouter Méné est une bouffée d'oxygène. Enfin, quelqu'un s'intéresse à elle, pas comme mère ou épouse, mais comme femme avant tout. Pour faire parler ses auditrices sur des sujets aussi intimes, Méné met à profit ses 10 années d'analyse. Mais désormais, elle n'est plus la patiente qui s'épanche, elle est celle qui fait parler, qui écoute la confession. Je me concentrais simplement sur ce qu'il disait, essayant d'écouter vraiment les mots, les associations, les absences, les silences et de poser les questions irrationnelles qu'il suscitait, explique-t-elle. Cette obsession de faire sortir les femmes de leur cuisine et de leur foyer est le fruit d'un long parcours de vie. Méné est née Marie Laurentin en 1919 dans une famille bourgeoise vendéenne. Anti-religion dès sa plus tendre enfance, elle rejette son prénom Saint et exige qu'on l'appelle Méné. Seule sa mère continue de l'appeler Marie. Entourée de 3 frères et une sœur, elle comprend très tôt que les filles ne sont pas traitées de la même façon que les garçons. La veille de son mariage, sa mère, très distante avec elle, la met en garde. Une femme doit tout accepter de son mari. C'est dur, car il y a des hommes pour qui c'est tous les jours. Mais Méné est une femme de caractère. Bachelière, elle fait des études d'histoire, d'archéologie, se passionne pour la sculpture, l'aquarelle. Pendant la guerre, elle entre en résistance en fournissant de fausses cartes d'identité. En 1949, le livre « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir la déstabilise. Elle s'interroge alors sur le sens qu'elle veut donner à sa vie. Elle intègre le comité de liaison des associations féminines. Elle voyage beaucoup, elle découvre les conditions de vie difficiles des femmes chinoises. À l'inverse, elle est fascinée par la modernité de la Suède, qui possède depuis longtemps des plannings familiaux, un pays où les femmes utilisent des contraceptifs. Elle rédige des articles, est appelée pour animer des conférences. Elle prononce par exemple 40 discours dans 40 villes d'Italie. Elle est ovationnée à Pittsburgh aux États-Unis. Elle passe 1 mois en Finlande. Elle devient cette femme libre qu'elle a toujours rêvé d'être. Défendre la cause des femmes derrière un micro lui est donc naturel, vital même. En 1965, seuls 40% des foyers français possèdent la télévision. Alors, la radio est souvent l'un des seuls moyens de s'informer. À la même époque, de nombreux foyers ne possèdent pas de téléphone, dans les campagnes notamment. Alors, parler à menhir relève parfois de l'exploit. Certaines auditrices sont obligées de parcourir de longs kilomètres pour rejoindre un poste PTT et appeler la station, au risque que leur conversation soit entendue par les gens du village. Et entendue, elle l'était, mais par la France entière. En 1973, ils sont jusqu'à 3 millions à l'écouter tous les après-midi et beaucoup d'auditeurs sont notamment friands des conseils sur la sexualité que prodigue Méni. Alors la radio décide d'ajouter 30 minutes supplémentaires. Le nom de l'émission, Responsabilité sexuelle. Accompagné d'un psychiatre, d'un sexologue, Méni parle exclusivement de sexualité. Pour la première fois dans les médias, on entend, et parfois même on découvre, des mots comme masturbation, clitoris, éjaculation précoce, plaisir féminin. L'émission cartonne. Au téléphone, des femmes se confient comme jamais. D'autres n'en manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous quotidien. Une agricultrice confie à l'animatrice « Méni, j'ai reculé l'heure de la traite pour pouvoir vous écouter. Pendant que je travaille, j'emmène le poste sous la vache. »
Le lait ne tournait pas, c'est bon.
Non. Vous voyez, elle a fait un bien fou à la France. À l'inverse, certains ne supportent pas ce déballage intime. Il faut dire que Méni ne ménage pas son auditoire. Elle donne la parole à des femmes violées, des victimes d'inceste, de violences conjugales. Toute sa vie, elle l'aura passée à s'intéresser aux autres. Les histoires de mes auditeurs n'étaient ni bien ni mal. Je n'étais pas là pour les juger. C'était simplement la vérité et il fallait la dire. Et grâce à Méni, elles ont pu, pour la première fois, le dire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Méni Grégoire, nous sommes avec le journaliste Jean-Baptiste Bergès qui lui a consacré justement un livre. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphanie.
On parle donc de la pionnière de la confession radiophonique avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos confesseurs célèbres de l'histoire continuent. On parle de celle qui a confessé les auditrices à la radio en plein après-midi, Méni Grégoire. On en parle avec notre invité qui lui consacre un livre, Jean-Baptiste Bergès.
Oui, Jean-Baptiste Bergès, vous êtes journaliste, vous êtes aussi l'auteur de Méni Grégoire, ses derniers souvenirs publiés aux éditions du Panthéon, des souvenirs qu'elle vous a confiés puisqu'elle est décédée en 2014 à l'âge de 95 ans. Vous alertez dans l'avant-propos que vous ne vous placez dans ce livre ni en biographe, ni en sociologue, mais en passeur de mémoire. Comment vous, jeune homme, vous vous êtes rapproché de cette grande dame? Comment est née cette histoire? Quel a été le point de départ?
Effectivement, Stéphane, elle n'appartenait pas à mon monde, ni à ma génération, parce que lorsque je la rencontre en 2012, 70 ans nous séparent. J'ai juste 24 ans, donc j'ai pas vraiment d'occasion de la rencontrer, mais il se trouve que, voilà, à l'époque, je travaillais pour un site internet média, je voulais lui consacrer un article parce que je suis passionné par les vieilles voix de l'époque des années 70 de la radio, parce que je suis moi-même passionné de radio. Et lorsque je l'ai appelée et qu'elle m'a donné rendez-vous le dimanche suivant pour une interview, là, on s'est rendu compte que nous étions voisins.
J'ai été envoûté par son savoir, sa sagesse et sa beauté. Sa beauté, elle était tellement belle. Je me souviendrai toujours de la première fois où elle m'a accueilli sur le pas de la porte. Waouh, elle en jetait grave la mamie. Ça a été un coup de foudre.
Un coup de foudre amical. C'est vrai que je l'ai trouvée très belle. Je m'attendais pas à trouver une dame de 93 ans perchée sur des talons, très bien vêtue, avec les ongles rouges faits. Mais voilà, j'apprendrai au fil de nos conversations que c'est très important pour Méni Grégoire de rester belle. Elle était très coquette. Elle voulait se reconnaître dans le miroir. Et jusqu'à la fin de sa vie, ça a été quelque chose d'important pour elle.
Vous mettez en exergue dans votre ouvrage ces mots de Méni Grégoire, extrait du documentaire Une voix sur les ondes. Libre, pour moi, c'est un mot admirable, c'est le plus beau mot de la langue française. Il y en a un autre qui est le mot amour, et puis le mot femme et le mot homme. Si vous mettez tous ces mots ensemble, vous comprendrez ce que représente ma vie. C'est avec les mots libre, amour, femme, homme que l'on peut comprendre qui était Méni Grégoire.
Effectivement, ce sont quatre mots qui sont vraiment quatre mots-clés et qui résument bien ce qu'a été sa vie. Et je dirais que le mot le plus important, c'est le mot libre. C'est celui qu'elle a placé en premier. Pourquoi? Parce que Méni Grégoire, depuis son plus jeune âge, depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours voulu devenir une femme libre, libre de ses choix, libre de ses convictions, libre de ses amours. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Et puis après, elle a voulu aussi le faire avec les auditrices sur l'antenne.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, votre ouvrage, au-delà de la personne de Méni Grégoire, répond à une question toute simple. C'était quoi la vie de ta grand-mère?
Alors moi, j'ai découvert ce qu'était la vie de ma grand-mère grâce au récit de Ménie Grégoire. J'ai découvert que les femmes, à l'époque, n'avaient le droit de rien, à part d'obéir à leur mari. Elles n'avaient pas le droit de travailler, elles n'avaient pas le droit de signer un contrat de travail, d'ouvrir un compte en banque. Et c'est pas si vieux, finalement. Ouais, et Ménie a vraiment aidé à faire évoluer la société.
On a réduit un peu trop Ménie Grégoire à cette femme admirable qui parlait de sexe à la radio. En fait, vous le dites, elle allait beaucoup plus loin. Elle a révolutionné la société.
Mais au début, elle parlait pas forcément de sexe. Mmh. C'était des questions du quotidien, des divorces. Les femmes, elles se faisaient quitter par leur mari. Elles ne savaient pas quoi faire. Elles savaient pas que les assistantes sociales existaient. Il y a eu beaucoup de cas d'avortement. L'avortement, ça a été un gros sujet. C'était interdit à l'époque, mais c'était pratiqué dans des conditions ignobles. Et les auditrices venaient s'épancher auprès de Ménie Grégoire sur ces sujets-là. Et justement, concernant l'avortement, elle a permis d'insuffler un petit peu le mouvement jusqu'à la loi Veil, puisque Ménie Grégoire est allée à l'Assemblée nationale avec les lettres de ses auditrices sous le bras. Pour raconter aux députés dans quelles conditions les Français se faisaient avorter. Et ça, c'est vrai, ça a marqué. À la fin, elle me racontait, elle me disait, je voyais ces hommes si virils devenir blêmes à l'écoute de mes lettres d'auditrice, mais c'est le cas. Donc, sur l'avortement, elle a fait beaucoup. Sur la contraception également, parce que la contraception était autorisée, mais les Françaises n'étaient pas au courant que ça existait et les médecins ne prescrivaient pas la pilule. Donc, grâce à son émission, Ménie Grégoire a permis d'informer les femmes. Voilà. Et pour elle, la liberté de la femme passait par la contraception avant tout.
Ce qui est incroyable, c'est que c'est la première à qui on se confiait à la radio. Et c'est vrai que depuis, il y en a eu d'autres par la suite. Mais la première, celle qui a la pionnière à la radio de ses confessions intimes, si je puis dire, parce que c'est elle qui a inventé ça.
Ah ben, elle a osé, en fait. Elle savait pas trop ce qu'elle était en train de faire. Elle a commencé en lisant une lettre et le lendemain, elle avait 100 lettres qui sont arrivées au standard de la radio. Elle s'est dit qu'il y avait un réel besoin. Elle a ouvert les ondes et c'est ça. Mais vous avez raison, aujourd'hui encore, il y a...
Mais tout le monde, sur toutes les antennes, vous-même, vous écoutiez parce que vous étiez très jeune. Mais est-ce que vous avez... Elle avait déjà quitté la radio quand vous êtes né, non?
J'étais pas né.
Bah oui. C'est pas bon. Comment vous êtes l'époque?
Oui, c'est vrai. Non.
Elle arrive en 80. Oui, c'est tout. Vous voyez, c'est ça, il pourrait être mon petit-fils. Et donc,
non plus.
Non, mais c'est je pense qu'on n'imagine pas, Mathieu, ce qu'elle a représenté dans l'imaginaire collectif. Et c'est vrai, moi, ce qui me bouleverse, c'est de penser que des femmes faisaient des kilomètres alors qu'il n'y avait pas le téléphone chez eux à la campagne pour téléphoner. Et pour raconter leur souffrance.
Ah oui, des femmes, des hommes. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutaient Ménie Grégoire en cachette pour comprendre leur femme. Ça, c'est voilà.
Ça marchait vraiment, tout le monde l'écoutait.
Tout le monde écoutait.
En tout cas, c'est une belle histoire d'amitié par de l'alésage. C'est aussi un devoir de mémoire pour comprendre la vie cachée de nos grands-mères. Lisez donc Ménie Grégoire, ses derniers souvenirs, paru aux éditions du Panthéon. Merci Jean-Baptiste Vergès.
Merci à vous Stéphane, merci Mathieu.
Ménie qui a libéré la parole et la parole libre sur Europe 1 à toute heure du jour et de la nuit aussi, puisque vous retrouvez les oreilles attentives d'Olivier Delacroix du lundi au jeudi et de Sabine Marin du vendredi au dimanche pour la libre antenne d'Europe 1 à 22h30.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les confesseurs célèbres de l'histoire. Et Mathieu, pour notre troisième personnage, vous nous brossez le portrait à 99% vrai de celui qui est un peu le François Dex de la chaise des temps modernes. J'ai nommé Laurent Boyer.
Oui, à la peroxydation près, c'est ça. Laurent Boyer, Lolo pour les intimes, est clairement le confesseur de star le plus célèbre de notre temps. Alors bien sûr, la confession a considérablement évolué depuis François Dex de la chaise, ainsi que les dogmes d'ailleurs de l'Église catholique. Tout est beaucoup plus cool aujourd'hui, comme le prouve cette remarque du pourtant très pieux Stéphane Bern il y a quelques jours.
C'est mardi gras, on a le droit de casser le carême.
Lolo Boyer, c'est ça, hein, une approche plus fun du catholicisme et de la confession, moins dans le reproche, et c'est son secret pour faire parler les stars. Alors, au fil du temps, on a distingué plusieurs méthodes susceptibles de pousser une star à la confession. Un interrogatoire, suite à la perquisition où les officiers de la BAC ont trouvé des petits sacs zippés pleins de farine. Un César d'honneur, aussi connu sous l'appellation de « vous êtes en phase terminale mais on n'est pas complètement des connards, on sait dire au revoir ». Et donc, la méthode à Lolo. Méthode combinant écoute de l'autre, tutoiement complice et questions dérangeantes poussant les stars dans le retranchement comme à Céline Dion en 2003. Céline, de toi à moi, ça fait quoi d'être number one ? C'est un bonheur de chaque instant, avait répondu Céline, pas déstabilisée par l'audace de Lolo. Évidemment, avant de se retrouver au beau milieu du désert du Nevada sur un fauteuil en sky face à Céline Dion, Laurent Boyer a dû franchir les étapes de la célébrité une à une. Né en 58 à Paris,
Lolo est un enfant de la télé, ou plutôt à l'époque, de l'ORTF. Il adore Discorama, l'émission de Denise Glaser, où son sens de l'interview le frappe. À la fac, il étudie les lettres.
F-C-Z-P.
Oui, toutes les lettres, quoi. En parallèle, il est pion. Il s'occupe même du foyer où il organise des petites soirées pour une programmation musicale pointue, car Lolo adore la musique. Une maîtrise de lettres et de musicologie en poche, il est bien parti pour devenir prof. Mais comme il fait un mémoire sur la radio, il se retrouve étonnamment dans le cadre de ses recherches.
Dans le bois de Boulogne.
Mais non, Stéphane, à la radio. Soyons logiques, dans les couloirs de cette radio, il rencontre un des patrons qui lui propose comme ça un job. Eh oui, les millénials, ça passait à se passer comme ça à l'époque du plein emploi. Et on est en 81 et Lolo débarque sur Radio 7. On est alors en plein boom des radios libres et Radio 7 est à l'époque hyper tendance.
Changer de planète, écoutez Radio 7.
Vous savez, quand je dis que c'était tendance, je précise bien à l'époque. Laurent enchaîne ensuite avec Kiss FM avant d'arriver sur Europe 1. Puis Europe 2, dont la programmation était axée sur la musique. Ça tombe bien, je vous l'ai dit, il adore ça, la musique. En plus, en 80, il a été DJ à Noirmoutier. Ne riez pas, Stéphane, je ne ferai pas le malin si j'étais vous. Parce que, non, mais j'ai la liste de vos petits boulots. Hein. En outre, celui dont vous nous avez parlé, Dame Pipi au château de Versailles, il faudra que vous m'expliquiez un jour ce qu'est exactement un excitateur de panda. Mais Lolo Boyer, ce n'est pas qu'une voix, c'est aussi une gueule, un physique. 1m88, des yeux perçants, une crinière blonde.
Oui, c'était un viking, quoi.
Oui, à peu près. Et en 87, Laurent se fait embaucher sur une toute nouvelle chaîne du réseau herdien, M6. Ça tombe bien, à sa création, la programmation de la chaîne est à dominante musicale. Je vous ai déjà dit que Lolo aimait la musique. Il commence à la présentation de Pour un clip avec toi. Puis en 89, il crée Fréquence Star. Plus d'une heure d'interview intimiste avec un artiste, au début en studio, puis dès 92, dans un lieu choisi par l'invité. Lolo appelle ça un bavardage. Il donne l'impression qu'il parle à une copine ou à un copain. Il tutoie tout le monde et il peut discuter et écouter les stars dans à peu près toutes les situations et surtout toutes les positions. Accroupi en jean slim dans la loge de Johnny, en tailleur sous un arbre avec Hélène Segarra, en espadrille sur un ponton à Porto Vecchio avec Patrick Fiori, en 18 ans, il va enregistrer 375 numéros. Staccanoviste, Laurent bosse 3 jours en amont de chaque tournage afin de connaître au mieux l'artiste avec qui il va marcher sur une plage et à qui il va demander « Alors Dave, le crotois, les chalutiers, ça te fait quoi ? Tu aimes l'iode ? Ça serait pas fou de se barrer en caravelle, là, tout de suite, maintenant ?» Et un cachet de Nausicaan plus tard, on les retrouve en pleine mer en train de parler d'une rencontre qui a tout changé. C'est pas flippant comme du Mireille Dumas, ni gênant comme du Evelyne Thonat, c'est un subtil mélange bienveillant, complaisant, diront les haters, mais c'est surtout un vrai travail d'écoute. De Patricia Cass à Danny Boone, en passant par Pierre Palmade, Muriel Robin et Laurent Voulzy, il devient l'ami des stars et Fréquence Star un passage incontournable pour les artistes qui, en confiance, se livrent comme jamais. Révélation, indiscrétion, c'est ainsi grâce à Lolo Boyer qu'on a appris que Stéphane Bern aimait l'histoire, ok ?
Et surtout le tarama à la truffe.
Ah. D'autres scoops comme ça suivront. On apprendra ainsi que la chanteuse Elsa a bu du thé et des petits gâteaux avec Lino Ventura et Romy Schneider, ou que France Gall, en 93, a décoré elle-même sa maison. Et là, Laurent lui pose la question fatidique. C'est un coup de foudre, une maison, non ? Et France Gall de lui répondre, après une seconde d'hésitation insoutenable, on est branché maison ou on l'est pas. C'était ça, Fréquence Star. Il y a aussi ce moment de vérité en 2001 face à Jean-Jacques Goldman où Laurent lui demande « Alors Jean-Jacques Goldman, toujours champion de snowboard ?» Et Goldman enchaîne du tac au tac. « Ah ben non, je suis pas champion, je me défends pas mal, mais par rapport aux gamins qui font des sauts périlleux, moi je fais attention à mon dos !» Comme dirait Stéphane après l'interview d'un invité sur un thème qui lui tenait à cœur.
C'est passionnant.
Lolo nous apprend également que Estelle Lefébure se sent bien dans un lavoir et que petite, elle tirait la langue aux vaches. Des confessions émouvantes entrecoupées de très jolis plans en sépia au ralenti où Estelle éclate de rire à côté d'un cheval dans un haras du pays d'Auge. L'émission s'arrête finalement en 2006. Il est temps pour Lolo non plus d'accueillir les stars mais de créer celle de demain. En 96, il lance donc avec Thierry Ardisson l'émission Graines de Star. Un télécrochet d'où émergeront les plus grands talents, Jean Dujardin, Jérôme Commandeur et d'autres talents, Evangélie et Sandy Valentino. On se pose encore la question. En parallèle, l'insatiable Lolo revient en radio. Il présente sur RTL le grand quiz de l'histoire de France aux côtés d'une certaine Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui. Ils sortent même un bouquin ensemble et pour en faire la promo, ils appellent un pote.
Les stars de la chanson n'ont aucun secret pour lui, tant il est devenu leur ami, leur confident, voire leur accoucheur. Elle est incollable sur les personnages illustres du passé, les grands héros de l'histoire de France, avec une passion jamais démentie pour la petite histoire secrète, l'anecdote croustillante, et un goût assumé pour la nécrophilie. Entre cet animateur populaire franchissant à la télévision un grand saut dans l'histoire, en quittant la télé des jeunes M6 pour accompagner leurs aînés tous les midis sur France 3, et cette tête chercheuse qui n'aime rien tant que raconter des histoires, ils en ont tiré un livre, le grand quiz de l'histoire de France chez Lattès. Avec nous ce matin, Laurent Boyer et Clémentine Portier Kaltenbach.
Le plus long lancement de l'histoire de la radio. Et qui pourrait dire après ça que ce métier est une succession de petites magouilles et de renvois d'ascenseur.
Mais non, mais on était obligés parce que c'est pour les droits SACEM.
Le 10 décembre 2010, Laurent Boyer quitte M6 après une collaboration de 23 ans pour reprendre sur France 3 la tranche du midi, d'où le nom en forme de coup de génie, Midi en France. Alors, n'ayant pas encore l'âge de regarder France 3, je ne peux pas vous en dire grand-chose, si ce n'est que Lolo a mis en lumière ses artisans bouchers, ses vignerons, des directrices de salles des fêtes et tous ces gens avec des joues un peu couperosées qu'on aime tant saluer le week-end lorsqu'on quitte Paris pour rejoindre notre résidence secondaire dans le Perche.
Coucou, me revoilà.
Crie souvent Stéphane, mais de loin, aux habitants de Thiron-Gardet, qui l'accueillent en lui lançant comme de juste des pétales de rose. Bref, Lolo sillonne le pays.
Vous voulez qu'on parle de vos week-ends en Normandie?
Ah, mais moi je suis très discret, vous savez, quand je suis en Normandie. Je me fonds vraiment.
Ah, bah, rien que la voiture vraiment. Quand elle arrive.
Stéphane, je vous en prie, ma Punto est très discrète, oui, elle est noire.
C'est Cendrillon. La Punto se transforme en Porsche.
Ah non. Stéphane, mettez-vous. Nous sommes dans le portrait de Laurent Boyer. Oui. Lolo qui sillonne le pays, mais en 2015, probablement un peu lassé des comparatifs de pâté en croûte, il arrête Midi en France et revient en Rodier pour un concept absolument inédit qu'il décide d'appeler Fréquence Star. Et c'est donc reparti pour un tour, mais en radio. Alors, cela dit, hein, Lolo est resté proche d'M6, alors que nous réserve-t-il pour l'avenir? Des interviews? Des célébrités? Les deux en même temps? Peut-il toujours rester accroupi 30 minutes sans se choper une crampe? Sait-il qui est Weshden? Weshden, sait-il qui est Laurent Boyer? Ou plutôt, sait-elle, puisque David me souffle à l'instant que c'est une femme? En attendant, redécouvrez sur YouTube les meilleurs moments de Fréquence Star, cette émission où les stars se lâchaient allègrement.
Je vous raconte une anecdote. Le comte de Paris, il avait un ménat. Et donc, chaque fois qu'on arrivait, j'en disais « Allô, monseigneur ?» Voilà.
Formidable. Formidable. C'était dingue, Fréquence Star. On apprenait des génial, trucs, mais c'était dingue.
Ouais, merci Mathieu.
Tout était vrai,
c'était 100%
finalement.
Vrai,
à part évidemment 1% de faux sur l'histoire de ma voiture que vous avez inventée.
Non, sur ce vraiment... que vous racontez sur moi.
Mais ne dites pas n'importe quoi,
mais
Stéphane.
Plaisantez, mais je vais faire une vidéo comme celle que vous mettez sur Instagram. Et là, les gens vont voir. Il y avait donc 1% de faux, ça me concernait. Je vous remercie, c'est ça les amis. Voilà, avec vous, il n'y a plus besoin d'avoir des ennemis. Alors,
mais je crois que depuis le début, je le confonds avec Julien Courbet.
Mais
j'ai la tête de Julien Courbet, je fais ah oui, je savais pas qu'il avait fait tout ça.
Il a fait tout ça, il a mis des stars et tout. Ouais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, dédiée non pas à un retour vers le futur, mais plus modestement, on va arriver vers le présent.
Oui. Oui, Stéphane, d'où vient ce plat, ce mot, cet objet, pour répondre à ces questions hétéroclites? Une brochette qui ne l'est pas moins. Olivier Pouls, David Castello-Lopez. Et vous-même, Olivier Pouls, vous nous parlez aujourd'hui de la sole meunière.
Oui, délicieuse manière de préparer ce poisson tout plat.
Hein. Mais c'est comme une limande, en fait.
C'est comme une limande, mais c'est une sole.
Mais
c'est une légende plus particulière.
Oui, c'est plus cher.
C'est beaucoup plus cher. Le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui l'aurez aujourd'hui. Vous allez revenir sur l'étymologie du
lundi,
mot.
Lundi, c'est la journée de la femme. Vive les femmes. D'où vient ce mot femme?
Femme. Je vous aime. Femme. David Castello-Lopez, on va plutôt procéder au lancement de votre chronique. Vous nous parlez aujourd'hui de l'histoire du filtre à cigarette.
Ouais, tout à fait.
D'où ça vient et à quoi ça sert? À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
David Castello-Lopez est non seulement journaliste formidable, mais également dans le privé, il faut le savoir, un human beatbox de haut niveau. Démonstration, David.
Ah, il faut que je fasse ça.
Oui, allez-y.
Voilà. Mais vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il a tous les talents, ce garçon.
Je peux pas faire mieux que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le top.
Non, c'est le top des talents buccaux. Dites-moi, David, chaque jour, l'origine d'une invention. Oui. Aujourd'hui, non pas le human beatbox, mais le filtre à cigarette.
Tout à fait. Moi, j'ai grandi dans une famille où fumer, c'était vraiment l'interdit absolu. C'est-à-dire le péché capital. Mes parents, ils étaient terrorisés à l'idée que je me mette à fumer. Et comme incitation à la tempérance, ils m'avaient dit, si tu ne touches pas une cigarette avant l'âge de 18 ans, on te donnera une voiture.
Ça, c'était bon comme deal.
Mais j'ai toujours pas mon permis, donc ça n'a servi à rien, donc voilà. Mais un jour, dans la maison de mes parents au Portugal, il y a quelqu'un qui a oublié un paquet de cigarettes et un briquet, et je me souviens très bien d'être devant le paquet, d'hésiter un peu, et puis de le prendre. Aïe. De courir dans le champ d'à côté, à côté de la maison, et d'allumer une cigarette. C'était le blasphème ultime, et j'ai kiffé un point infini, même si bien sûr j'ai trouvé ça dégueulasse comme tout le monde. Mais pendant longtemps, j'ai donc gardé cette sorte d'attirance pour la cigarette mêlée de culpabilité. J'ai commencé à fumer plein de fois, puis arrêter plein de fois, puis recommencer, puis fumer des vogues en essayant de garder ma virilité. Ce qui était
ça,
chaud.
C'est très dur. Hein.
Très
vous
très chaud, les cigarettes toutes fines là. Mais depuis le 28 juin 2018, je n'ai pas touché une cigarette, même une taf, rien.
Bravo.
Que dalle. Alors quand je fumais ce que les jeunes aujourd'hui appellent des indus. c'est-à-dire des cigarettes industrielles, c'est-à-dire des cigarettes généralement avec des filtres. Ces filtres, donc, qui sont des petits cylindres, souvent orangeâtres, qui séparent les lèvres du tabac et qui sont pleins de fibres qui sont censées filtrer la fumée. Et donc, j'ai eu envie de m'intéresser de plus près à l'histoire spécifique de ces filtres. Alors, au départ, toutes les cigarettes étaient sans filtre, et puis les filtres sont arrivés au début du XXe siècle, mais de façon ciblée pour les femmes. D'ailleurs, plus que des filtres, c'était plutôt des variations autour du porte-cigarette, c'est-à-dire des objets en résine ou en liège destinés juste à séparer la cigarette des lèvres pour éviter de se retrouver avec des petits morceaux de tabac sur les dents. Parce qu'avoir du tabac sur les dents pour un homme, c'est pas top, mais pour une femme, c'est inacceptable. Et oui, comme les femmes sont des êtres évanescents qui ne doivent pas paraître touchés par les lois prosaïques de la matière, eh bien le tabac sur les dents, c'est pas possible. Et puis, à partir du début des années 50, on a compris que la cigarette, c'était une des plus mauvaises choses du monde pour la santé. Et là, ces FDP de fabricants de cigarettes, ils ont paniqué. Et ils se sont mis à mettre sur toutes leurs cigarettes des filtres censés atténuer les effets du tabac. Et l'un des premiers fabricants à l'avoir fait, c'est Kent, en 1952. Eh bien, ils ont sorti les Kent avec ce qu'ils appelaient un micronite filter, un filtre micronite avec un jingle célèbre qui allait avec. On l'écoute. Kent with the micronite filter refines away harsh flavor. Kent with the micronite filter refines away harsh flavor. Les cigarettes Kent avec leur filtre micronite atténuent la dureté du goût. Bon, sauf que, est-ce que vous savez ce qu'ils mettaient dans le filtre micronite?
Du goudron.
Vous pouvez deviner, c'est mieux que ça encore.
De l'amiante.
Et autant vous dire que mettre de l'amiante dans un filtre à cigarette, c'est beaucoup moins bien que de rien mettre du tout. Vous voyez? Vraiment, vraiment. Et je vous propose maintenant, en sachant que les filtres micronite avaient de l'amiante dedans, je vous propose de réécouter la bonne humeur de ce petit jingle sur le filtre micronite avec de l'amiante dedans. Kent with the micronite filter refines away harsh flavor. Voilà, c'est vraiment la bonne humeur de l'amiante et du cancer qui arrive. Il y a d'autres fabricants qui ont inventé d'autres types de filtres dans les années 50, mais ces filtres, ils avaient tous en commun d'être plus ou moins toxiques en eux-mêmes. Toxicité qui augmentait la toxicité de la cigarette au lieu de l'atténuer. Et à peu près à cette époque-là aussi, il y a un chimiste de la société Reynolds qui s'appelait Claude Tighe et qui a inventé le truc qui mérite vraiment l'Oscar du FDP, la médaille Field de la connardise, un filtre qui devient marron quand la fumée passe à travers. Pourquoi? Eh bien pour que tout le monde se dise « Oh là là, tout ce marron qui est resté sur le filtre, ça veut dire que ça marche, et que si le filtre n'était pas là, ces mauvaises choses se seraient retrouvées dans mes poumons. Heureusement que le filtre est là !» Mais ce marron, ce n'est pas des mauvaises choses en soi, ça n'a rien à voir avec les particules qui étaient filtrées. Si ça, c'est pas un truc de FDP. Alors, je suis pas certain exactement et j'ai pas pu vérifier que c'est les mêmes que ceux que Claude Tighe a inventés. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les filtres actuels, ils reposent tous sur le même principe. Il y a des petits trous sur les côtés du filtre qui laissent passer de l'air quand vous inhalez la fumée. Et donc, il y a moins de fumée qui arrive dans vos poumons puisqu'elle est mélangée avec de l'air. Alors, au premier abord, on pourrait se dire, c'est cool.
Oui.
Sauf que, un, la cigarette, vous allez la fumer en entier. Donc à la fin, ce sera pareil, puisque la quantité de fumée présente dans une cigarette, elle est fixe. D'ailleurs, à ce propos, il y a un chercheur qui a dit « Fumer une cigarette à filtre en entier et croire qu'on a inhalé moins de fumée, c'est comme penser que si on mange la même quantité de glace avec une plus petite cuillère, on en aura mangé moins. » Et deuxièmement, il y a des études qui ont montré que les fumeurs qui fument des cigarettes avec filtre, ils ont tendance à compenser la présence du filtre en tirant plus fort sur la cigarette. Et il y a d'autres études qui ne sont pas encore confirmées, qui tentent à montrer que le fait de tirer plus fort sur sa cigarette, ça fait aller la fumée plus loin dans les poumons, ce qui pourrait expliquer un certain nombre de cancers spécifiques, en plus des cancers normaux liés à la cigarette. Et si ces études sont confirmées, ça veut donc dire que l'effet des filtres sur les cigarettes, ce n'est pas de donner moins de cancers, ou même autant de cancers, c'est de donner plus de cancers. Et ça, c'est énervant, et ça a fini par refroidir complètement mes excitations sur les cigarettes.
Ah bah oui, complètement. Et celle de nos auditeurs aussi, je peux vous dire.
Je peux vous dire, là, j'ai plus du tout envie.
Fumez vous n'avez jamais eu envie, j'ai jamais fumé. Donc vous n'êtes pas un bon exemple. Hein, bon.
C'est vrai. J'ai oublié. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Passons en cuisine, c'est l'heure de l'apéro, mais qu'est-ce qu'on mange après?
Ben, on va manger des saumonières après s'être intoxiqué avec ces cigarettes. Là, moi, je vous propose quelque chose d'un
ça
peu plus sain.
Attention, il y a du mercure dans la saule.
Oh, n'exagérons pas.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure est venue, les amis, de se pencher sur l'histoire gastronomique. Olivier Pouls, vous êtes avec nous, vous êtes notre expert gastronomique. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, la saumonière.
La saumonière, même si on peut cuisiner de manière meunière, plein d'autres plats, mais je trouve qu'à la sole, ça lui va particulièrement bien. Tiens, je fais une petite digression. Est-ce que vous savez, vous connaissez la légende de la sole, ce poisson plat?
Dis-moi, Stéphane se vantait de la connaître.
Non, mais c'est peut-être un poisson qui se faufilait entre les rochers, qui a été...
Il s'est aplati lui-même en glissant entre les rochers.
C'est tout à fait ça. Alors, la légende qui est amusante raconte qu'au départ, la sole était un poisson tout à fait normal, de bonne taille, rond, qui était doté d'un
aiguillon. C'est d'un aiguille. Une normalité du physique.
Classique,
attention, c'est discriminant,
Olivier.
Ouais.
Et il était doté d'un petit aiguillon, et qu'un jour, Neptune se piqua à l'aiguillon de ce poisson. Alors ça l'a vraiment énervé, comme dirait David, il était vénère. Donc il a enlevé l'aiguillon de la sole et il lui a marché dessus. Il l'a écrasé, il l'a aplati.
Il a aplati la sole.
Et voilà.
Oui, mais ça marche pour un poisson. Pourquoi toute une génération et toute la descendance est aplatie?
Parce que scientifique. Quand la science mélange la mythologie. Ouais, merci Stéphane.
Et donc la sole est devenue anormale.
Et la sole est devenue
c'est
anormale.
C'est un peu solophobe.
Ouais, parce qu'il y a pas beaucoup de poissons plats comme ça. Oui, c'est une forme un peu particulière. Bon, alors maintenant on va revenir à notre manière de la cuisiner, donc la manière meunière. Alors meunière fait référence au meunier, celui qui produit la farine. Et ben il se trouve que justement il faut de la farine pour réaliser une cuisson meunière. Louis XIV, paraît-il, en raffolait, c'était, dit-on, l'un de ses plats préférés. Alors qu'est-ce que c'est que la sole meunière, emblème aujourd'hui de la bistronomie chic, des bistrots chics, parce que c'est un plat qui est plutôt cher. Le principe, c'est très simple. Vous allez prendre une belle sole, alors des soles de belles portions, environ 300 grammes. Vous allez demander à votre poissonnier qu'il la vide et qu'il enlève la peau brune qui est au-dessus. Vous savez, la sole, elle a deux faces, évidemment, et elle a deux peaux. Il y en a une qui est brune, il y en a une qui est blanche. Vous ne faites enlever que la peau brune qui s'enlève. C'est un peu comme un scratch, hein, le poissonnier sait faire. Vous l'enlevez. Vous allez bien l'éponger de manière à enlever tout l'excès d'humidité. Vous la passez donc dans la farine. On tapote gentiment pour... Là aussi, enlever l'excès de farine pour pas qu'il y en ait trop. Vous allez prendre du beurre, une belle quantité de beurre dans la poêle. Et le beurre, il faut attendre qu'il soit légèrement noisette. C'est-à-dire que non seulement il va avoir cette couleur un peu brune, mais il va dégager aussi une odeur qui est vraiment très agréable, ce côté un petit peu noisette. Et là, vous poêlez votre sole dedans en l'arrosant très régulièrement de manière... créer une petite croûte uniforme.
Parce que c'est ça qui est
bon. Bah, on l'arrose avec le beurre fondu au fur et à mesure que ça cuit. 3-4 minutes de chaque côté suivant l'épaisseur de la sole. Et c'est ça qui est vraiment très bon avec la sole meunière, c'est que vous avez ce petit contraste de texture. Hein, le dessus est très légèrement croustillant et puis la chair doit être absolument fondante à l'intérieur. On termine avec un petit filet de jus de citron et pour ma part un tout petit peu de ciboulette. Voilà la recette de la sole meunière, mais on peut aussi cuire plein d'autres poissons et même des légumes de manière meunière. Il y a par exemple des chefs qui aujourd'hui font des choux-fleurs meunières.
Ah oui, bon ça.
Et
oui.
C'est très bon.
C'est très bon.
Les choux-fleurs meunières.
C'est très bon.
Non, je ne sais pas.
Ou meunier, meunière, comme vous voulez.
En tout cas, merci Olivier de nous avoir mis le nez dans la farine et avec vos recettes meunières.
On vous retrouve demain Olivier autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe. Stéphane, vous allez nous donner le mot de la fin. Quant à vous, nous avons la journée de la femme qui arrive, mais vous prenez déjà de l'avance. Oui. Vous nous racontez, c'est le mot de la fin, le mot femme. D'où ça vient?
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Ce sont souvent les mots les plus simples qu'on oublie d'interroger. Mais aujourd'hui, Stéphane, justement, vous allez interroger dans le mot de la fin le mot femme.
Oui Mathieu, parce que lundi c'est la journée de la femme. Alors, avant de la célébrer, demandons-nous d'où elle vient. Va pas la femme, le mot femme. Au XVIIe siècle, César-Pierre Richelet, grammairien et lexicographe, est l'un des premiers rédacteurs de l'un des tout premiers dictionnaires de la langue française. Et en 1680, il donne cette définition de la femme, créature raisonnable faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme. Le décor est planté. Femme vient du latin femina, cela désigne tout simplement la femelle. Femina vient de fée, un mot issu d'une langue indo-européenne, fée signifiait tétée. Cela a donné les prénoms Félix et Félicité, qui signifient heureux comme un bébé qui tète. Toujours en latin, deux mots étaient des synonymes de femina. Moulière, qui désignait un être de sexe féminin, en ancien français on disait moilier. Et uxor en latin, cela signifiait épouse. En ancien français, on disait « oissour », un mot qui a disparu à la première moitié du XIIIe siècle, car finalement, on a dit « femme » pour tout, et c'est vrai que pour notre langue, c'est bien plus simple. Allez, deux jolies citations sur les femmes. La première est de l'humoriste Pierre Doris. « Tous les matins, j'apporte à ma femme le café au lit. Elle n'a plus qu'à le moudre. » Voilà, ça fait rire les hommes.
Toute une époque, ça fait rire les hommes d'une certaine époque. Notez que Olivier a beaucoup plus ri que David. Hein, oui. C'est quand même une autre génération.
David voilà. A compris plus tard. Et une petite deuxième.
Je suis pur.
Une petite deuxième pour la route. Une citation du fantasque champion de tennis. Vous savez, Ilie Nastase. Je n'ai pas déclaré à la police le vol de ma carte bleue. La personne qui me l'a prise ne pourra jamais dépenser autant que ma femme.
Citation idéale pour annoncer la journée de la femme, Stéphane. Je crois qu'on est bien dans l'esprit du
je
temps.
Je reconnais que c'est un peu sexiste. Oui. On me les a soufflés.
Mais citation. Du coup, on va parler de l'émission. C'est cool.
Citation d'une autre époque. Stéphane, j'ai une confession à vous faire.
Vous connaissez rien à l'histoire, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Bon, ça, vous l'avez deviné
vous
depuis
avez
longtemps.
Pour avoir, vous
j'ai,
avez,
j'ai un peu mitonné pour avoir le job, c'est vrai. Mais surtout, notre émission consacrée aux grands confesseurs de l'histoire se terminait. Alors moi, j'ai une question pour vous quand même, les amis. Est-ce que dans votre vie, vous vous êtes déjà fait confesser?
Dans le cadre de la religion chrétienne.
Oui, dans le cadre de dans un confessionnal et pas celui de Secret Story.
Mais je ne suis pas de confession chrétienne.
Oh, un portugais qui n'est pas de confession chrétienne. Alors là, on n'a jamais vu ça. Historiquement vôtre continue demain, Stéphane. On se retrouve demain.
Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.